Martine et Marinette.
Bonjour.
Voilà.
Bonjour à tout le monde.
J'ai même pas eu le temps de le dire. Bonjour.
Bonjour.
Merci de nous proposer cette belle chronique avec des invités. Nous sommes avec Marianne et Philippe depuis maintenant 15 jours. Nous allons changement complètement de décor pour ceux qui découvriraient. Vous, Marianne, vous avez travaillé dans le tourisme, vous avez été institutrice et puis maintenant vous avez mixé les deux. Voilà, vous nous avez un peu expliqué votre métier qui joue. Pas s'il porte vraiment un nom, il faudra peut-être l'inventer. Et vous, Philippe, vous êtes donc son époux, vous avez fait des études scientifiques, vous avez été ingénieur et maintenant vous êtes conteur. Voilà, tous les deux, vous avez complètement changé de vie. Je disais, point de départ, une maison qui a précipité un peu votre projet. Cette maison a fait que voilà, il fallait l'acheter maintenant et pas plus tard. Donc, en fait, vous aviez peut-être pas forcément l'intention de faire ça tout de suite, mais la maison était là, il fallait l'acheter. Et donc, si on l'achète, on quitte tout où on était et on change de vie. C'est ça ?
Oui. Ça, oui. Finalement, vous le résumez très bien.
Ah, okay, écoutez.
C'est un peu
mais,
ça.
Mais ça n'a pas été si simple que ça, quand même.
Alors, oui. Voilà. Alors, vous le résumez très L'histoire bien, mais quand on résume, là. On fait sauter des épisodes.
Et effectivement, ça a été très compliqué. C'est pas que ça n'a pas été si simple, voilà. C'est que ça a été objectivement très compliqué. Pas tant d'acheter la maison, parce que ça, acheter la maison, on fait comme tout le monde, on fait une offre, et puis si elle est acceptée, on achète. Ça, c'est pas... Ce qui a été compliqué, c'est que justement, vous l'avez dit, j'étais moi enseignante du premier degré, donc institutrice. On est recrutée par un département. Moi, dans ma carrière, j'avais travaillé pour la Haute-Garonne, après pour le département de Paris. Et à ce moment-là, quand je me suis dit, tiens, je vais venir vivre dans les Pyrénées, je travaillais pour le 94, le Val-de-Marne. Et on ne décide pas à l'Éducation nationale où on va travailler. On demande à partir, sauf que partir du Val-de-Marne, ça n'existe pas. Ce n'est pas que c'est difficile, ça n'existe pas. C'est ce qu'on appelle un département déficitaire. Il n'y a pas assez de candidats qui veulent aller y travailler. Donc, quand on y est, on ne peut pas
on y
en
reste.
Partir.
Si on est prisonnier.
À la vie, à la mort.
Si on... Donc, si... Ah non, à la vie, à la retraite. Pas à la mort, quand même. Après, là, je crois qu'après la retraite, ils nous laissent faire ce qu'on veut. Mais
ils s'en rappellent, tu sais.
Et du coup, oui. Alors, pour moi, très clairement, dire, tiens, je vais vivre dans les Pyrénées. J'ai tourné les choses dans tous les sens. Là, il y a plein de gens écoutant qui disent, oh, mais elle aurait pu prendre une dispo, mais elle aurait pu faire une mesure de mutation vers un autre corps. Non, quand on est dans l'académie du 94, on ne peut pas. Il y a une obligation de service qui nous est opposée systématiquement et on ne peut pas. Et il n'y a qu'une chose.
Démission.
C'est la démission.
Donc là, vous avez quitté votre statut de fonctionnaire aussi.
Oui.
Là.
J'ai quitté mon statut de fonctionnaire que j'avais depuis 20 ans.
La sécurité de l'emploi.
La sécurité de l'emploi et on part vraiment tout nu parce que quand on est fonctionnaire, comme normalement on n'est pas menacé de chômage...
On ne cotise pas.
On ne cotise pas.
Au chômage.
Au chômage.
Donc
on ne cotise
droit à
rien du tout. On ne cotise pas pour des formations particulières puisqu'on n'est pas censé être menacé par ces risques-là qui, dans mon cas, n'étaient pas un risque mais un choix. Mais on
en plus, vous êtes fonctionnaire d'État. L'éducation nationale, c'est fonctionnaire d'État.
Et oui, fonctionnaire d'État. Mmh. Oui, c'est avec tout un tas de choses adjointes à ça qui font que le départ est une décision qui est lourde et qui ne se décide pas.
Parce qu'on sait qu'on ne pourra pas y revenir. Hein.
Non, on ne peut pas. Mmh. On est parti, on ne revient pas. C'est le principe.
Voilà. Donc... lourdes conséquences de vouloir partir et
de changer. Il faut partir en étant vraiment sûr de ce qu'on fait et que le risque qu'on prend, on le prend jusqu'au bout et qu'il n'y aura pas de retour.
C'était dur la vie à Paris parce que là vous êtes sur un département, vous l'avez dit, difficile puisque quand on en a, on ne les laisse pas partir. Donc ça veut dire que ça ne se bouscule pas au portillon. Est-ce que ça aussi, ça a été quelque part...
Alors pour moi non.
Non.
Alors attention. Alors je vais dire pour moi non. Je voudrais surtout pas que les auditeurs en concluent que tous ceux qui souffrent de leur position en classe dans le 94, ils exagèrent. Pour moi non. Pour une raison assez simple, c'est que je suis arrivée dans le 94 j'avais déjà de l'expérience. J'avais déjà travaillé dans des quartiers difficiles dans d'autres régions. J'avais j'étais aussi pour le 94 dans une ville qui pour le coup n'est pas ce qu'on peut vous montrer dans certaines émissions de télé qui se font quand même un malin plaisir à focaliser toujours sur les mêmes endroits. Moi je travaillais sur la commune de Fresnes, il n'y a pas de secret. qui est une commune, oui, du 94, donc une ville de deux banlieues parisiennes, mais franchement, il me semble que l'école dans laquelle j'étais était l'école qu'on peut trouver un peu partout, avec une vraie mixité sociale qui faisait que... Non, j'ai pas... Alors voilà, si les gens pensent que j'ai voulu partir parce que c'était trop difficile avec les parents ou les enfants, pas du tout. Je n'avais absolument aucune difficulté, ni avec les parents, ni avec les enfants. Au fil du temps, ma difficulté était une difficulté avec l'institution elle-même, parce que je pense que c'est une difficulté plus profonde en moi, c'est-à-dire un désaccord qui se mettait petit à petit en place entre ce qui m'était demandé de faire et ce que je croyais qu'il aurait été bon de faire.
Oui, c'est-à-dire que lorsque l'éducation nationale vous dit « il faut traiter ça et vous devez le traiter comme ça », il y a des fois où vous êtes en conflit, quoi.
Alors, ils ne nous disent jamais exactement « il faut le traiter comme ça oui, », parce qu'on a quand même quelque chose de merveilleux qui est la liberté pédagogique. Mais quand on a été 12 ou 13 fois maîtresse de CP, qu'on voit arriver des enfants dont on voit de façon évidente qu'ils ne sont pas prêts à apprendre à lire, qu'ils avaient besoin d'une année de maternelle de plus pour pouvoir arriver serein dans cette année qui est très spéciale de leur scolarité, et puis qu'il y a une règle qui dit non, mais l'année de ses 6 ans, on est au CP, ben moi j'avais au bout d'un moment, alors peut-être que le mot est fort, peut-être qu'il est juste, mais moi j'avais l'impression d'être maltraitante, simplement, même si j'étais bienveillante en classe, simplement en exigeant d'enfants des choses dont ils n'étaient pas encore capables et pour lesquelles ils n'étaient pas prêts. Et petit à petit, ça a commencé à
vous travailler
à me travailler vraiment, à me dire mais je fais quoi, pourquoi je le fais, etc. Et après, il y a eu un épisode dans la vie de l'institution qui a été l'épisode de la fameuse réforme des rythmes scolaires qui a été gérée d'une façon, voilà, je ne vais pas juger à l'antenne, mais qui, moi, ne m'a pas convenu du tout sur la commune sur laquelle je travaillais et où les enseignants se sont sentis quasiment expulsés de leur classe symboliquement, puisque l'école devenait un lieu où il se passait des tas d'autres choses qu'apprendre, où la salle de classe se transformait en salle de jeu à peine les cours étaient finis, et où tout ça se mettait en place, où notre matériel servait tout d'un coup à des animateurs, alors qu'on n'a jamais eu les moyens de travailler, que le matériel, souvent, on l'achetait avec notre argent, et que du coup, on revenait avec un jeu qu'on s'était procuré soi-même, qu'on utilisait dans le cadre de son enseignement, où il manquait des pièces, des pions, ou qui avaient été mal rangés par on
sait pas qui.
Il y a
souvent eu des conflits, oui, entre les...
Ça a été très, très compliqué, et moi, je l'ai particulièrement mal vécu, parce que je crois que malgré tous les reproches que je pouvais faire à l'institution, malgré le fait qu'on n'y gagne pas merveilleusement sa vie, ce qui me plaisait, c'était quand même que dans ma classe, j'avais une liberté d'action qui là était très fortement compromise au nom de choses auxquelles je ne croyais pas, et dans un climat de rivalité, en tout cas de confrontation entre les enseignants et la municipalité, et que j'ai très mal vécu aussi. Donc tout ça a fait un amalgame où j'étais plus très à l'aise dans ce que je faisais. Je trouvais que je le faisais dans des conditions qui m'allaient de moins en moins. Donc je pense que ça, c'est le terreau de départ pour se dire, bon, il faut aller voir ailleurs. Sauf que, bon, voilà. Fonctionnaire d'État, aller voir ailleurs, a priori, c'est pas simple.
C'est pas simple. Vous auriez pu faire cette passion dont on parle en dehors des heures, puisque une institutrice, il y a quand même les vacances scolaires.
Alors ça, demandait à mon mari, en dehors des heures, ce que je faisais.
Ah, Philippe.
Oui. Elle préparait ses cours, elle préparait des projets, elle travaillait avec l'écomusée pour faire une exposition, elle travaillait toujours à des projets pédagogiques quand même. Mm-hmm. Mais
vous n'auriez pas pu, ça ne vous a jamais donné l'envie d'asseoir de votre métier et puis avoir cette passion vous avez vécu. Mais pas le temps, si on se réoriente sur cette passion, on peut peut-être le temps libre...
En fait, je crois que je faisais, parce que dans mon temps libre, moi, je faisais tout le temps des projets avec des écomusées, avec des compagnies artistiques qui me demandaient un temps de fou, de préparation en dehors des heures de classe. Et après, je faisais bénéficier mes élèves de ça. Donc, je crois que je le faisais, mais pas comme métier. Je le faisais en me disant, de toute façon, j'ai mon salaire d'instit, c'est ma façon de concevoir le métier. Après, c'est posé la question, effectivement, d'un certain mois de juillet 2014.
La maison. On en vient à la maison. parce que cette maison-là, elle vous a ouvert les portes quelque part et appelé. Et du coup, là, tout s'est éclairci, peut-être.
Non, d'abord, tout s'est assombré. Non, surtout que les gens ne croient pas que tout d'un coup, la révélation. Non. D'abord, cette maison, je sais pas, tu veux peut-être...
Philippe.
Prendre le relais.
elle est bavarde, hein.
Oui, c'est pour ça.
Non, oui, effectivement, la maison et puis le projet de vie qui va avec, aller dans les Pyrénées.
Vous avez de la famille à les Pyrénées.
Oui.
C'est lors d'une visite peut-être familiale que vous étiez en vacances et c'est là que vous avez vu cette maison à vendre.
Oui, on partait acheter du pain et on a vu une maison à vendre.
Vous êtes revenu avec une maison.
Presque, un mois après, c'est à peu près ça. Et on est revenu la tête tourneboulée par une maison où, voilà, qu'on a vu, enfin, on s'est arrêté devant en disant, tiens, c'est bizarre qu'elle soit à vendre, parce que moi, je croyais connaître la personne qui habitait dedans. Bon, enfin, voilà, j'avais loupé quelques décès dans la vallée parce que je venais en vacances, mais... Donc, il me dit, ah, elle est jolie cette maison, t'as vu, elle est à vendre. Je lui dis, mais non, elle n'est pas à vendre du tout. C'est telle personne qui habite dedans, c'est pas possible qu'elle soit à vendre. Puis, si elle était à vendre, il se trouve qu'on s'était arrêté devant. Et que les gens. Qui... Oui, et puis que les gens qui étaient à côté avaient la clé, nous ont demandé si on voulait la visiter. Je ne sais pas trop pourquoi on a dit oui, en fait, parce qu'on ne cherchait pas de maison, on allait acheter le pain. Mais, par curiosité, je pense.
C'est ça.
Et puis, quand on a visité la maison, bon, voilà, c'est une bigourdane comme il y en a tant ici, et qui sont toutes très belles, avec voilà, le rez-de-chaussée, le premier étage, pièce de vie. Et puis la personne qui nous faisait visiter nous dit très bien, sinon il y a un grenier aussi, si vous voulez le visiter. Ah, et moi, j'imaginais un grenier, vous savez, pour mettre les valises quand on ne s'en sert pas, ou le carton de trucs qu'on n'a pas trié. Et en fait, c'est un grenier qui est très, très haut, très grand, avec une superbe charpente.
On l'a vu, hein, c'est magnifique.
Ouais, une charpente où les poutres n'ont pas été taillées. C'est les branches d'arbres qui ont gardé leur forme, l'écorce à certains endroits qui y est encore. Et je crois que là, voilà, à la seconde où on a été dans le grenier, c'était fini, quoi. Il va falloir faire quelque chose...
C'était en fait, ils n'ont pas acheté une bigourdane, ils ont acheté un grenier.
Mais ça, c'est ce que tu dis.
Mais il est investi. Ah oui, il est magnifique.
Moi, j'ai beaucoup de livres. Oui, j'avais envie d'un espace aussi pour créer, pour se sentir bien.
Et vous êtes senti bien.
Face aux montagnes, avec une vue magnifique de l'espace, de la place. Parce qu'en région parisienne, l'espace coûte cher. Donc là, d'un seul coup, il y avait un grand espace. Conditions de travail idéales. Quoi. Ah
ouais. Et Philippe, après, quand tout ça s'est fait, disait à nos amis à Paris, j'ai acheté un grenier, il se trouve qu'il y a une maison en dessous et un terrain autour.
Mais c'est vrai que le grenier est bien investi.
Bien investi, bien arrangé.
Magnifique, ce grenier.
Ce que je vous propose, Marianne et Philippe, c'est de nous retrouver une dernière fois la semaine prochaine pour conclure un peu ce changement de vie. Qu'est-ce que vous en retenez? Si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez? Les questions que je vous poserai donc la semaine prochaine. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.